Info au week-end, Isabelle Pelletier.
La reprise du réseau Taneo aujourd'hui à Nouméa, les bus carouillés vont à nouveau sillonner une partie de la ville. Couvre-feu prolongé avec des horaires élargis du 21 au 24 septembre. Vente d'alcool interdite à compter de lundi et jusqu'au 24 septembre inclus. Le haut-commissaire Louis Lefranc était hier midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Le Conseil économique, social et environnemental approuve le plan de reconstruction du gouvernement et condamne fermement et officiellement pour la première fois les émeutes. Jacques Lucien s'est éteint à l'âge de 100 ans. Il était le dernier vétéran calédonien des forces navales françaises libres de la Seconde Guerre mondiale. Le sport du football avec le début de la quatrième journée du championnat de France avec Saint-Étienne-Lille en match d'ouverture. Et puis de nombreuses sorties ce week-end avec notamment aujourd'hui de 7h à 16h le Grand Marché Broussard de Ducos. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Après 4 mois de mise à l'arrêt total, les transports en commun de Nouméa reprennent enfin du service. Le GIE Carouya Bus annonce dès aujourd'hui la reprise des bus du réseau Taneo. On écoute tout de suite Joseph Saliga, le président du GIE Carouya.
Par rapport à la délibération qui avait été pondue par le SMTU, il y avait une suspension qui arrivait à son terme le vendredi 13. Donc aujourd'hui, nous on estimait par rapport à ce qui était prévu sur la délibération et ce contrat, aujourd'hui on devait reprendre. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Le principal pour nous au GIE, c'est de transporter la population qui a été privée de transport depuis 4 mois maintenant. Je pense qu'à un moment donné, il faut être humain. À un moment donné, on ne peut plus donner comme argument la sécurité en sachant qu'il y a juste à s'adapter par rapport aux endroits où c'est encore difficile. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, 99% des lignes de Carouya est exploitable aujourd'hui. Donc, par contre, si on arrive, tout le monde parle du 24 septembre, je pense qu'on n'est pas fou pour aller assurer une desserte alors qu'il y a un risque important le 24 septembre. Donc ça, on arrivera. Aujourd'hui, pratiquement 99% des lignes du réseau Taneo qui est opéré par l'entreprise Carouya est opérationnelle.
Joseph Saliga, le président de GIE Carouya, des propos recueillis par Sarah Mégery, a noté qu'il n'y aura pas d'augmentation des tarifs. Les horaires restent également les mêmes. Le haut-commissaire Louis Lefranc était hier midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il a longuement évoqué la situation sécuritaire 4 mois jour pour jour après le déclenchement de la violence insurrectionnelle. Michael Juneski.
Le haut-commissaire constate qu'il reste des problèmes sur Nouméa, notamment en vallée du Tir et rivière Salée. Le travail de déblayage des routes se poursuit en brousse. 80 000 mètres cubes de carcasses de voitures, de ferrailles et de débris divers ont été dégagés depuis le 13 mai. Louis Lefranc déclare que la situation au Mont d'Or et le rétablissement de la circulation sur la RP1 sont sa priorité, mais que le travail est long parce que l'adversité est très forte. Il indique que depuis le 13 mai, les forces de l'ordre ont essuyé 313 tirs d'armes à feu, souvent de gros calibre. Concernant l'effondrement économique de la Nouvelle-Calédonie, Louis Lefranc déclare notamment que la seule bouée de sauvetage, c'est l'État. Le haut-commissaire annonce aussi que pour le long week-end du 21 au 24 septembre, le couvre-feu sera rallongé sur ces 4 jours. Il sera en vigueur de 18h à 6h du matin.
Bon, d'abord, je ne crains pas le 24 septembre, tant vous le dire. Je vous ai donné le volume de force qui est à ma disposition pour traiter non pas seulement la date du 24 septembre, mais ce long week-end qui démarre le 21 septembre, donc samedi 21, dimanche 22, lundi 23, mardi 24, donc c'est 4 jours. C'est totalement intégré. C'est aussi la raison pour laquelle, dans les arrêtés que j'étais amené à prendre, tout d'abord, un bon arrêté, c'est l'arrêté du couvre-feu que les maires partagent. Donc de 22h à 5h du matin, du lundi 16 septembre jusqu'au samedi 21, donc 5h. De 18h à 6h du matin, du samedi 21 au mardi 24, inclus 18h à 6h. C'est un petit peu pour séparer l'ivraie du bon grain. Ceux qui n'ont rien à faire la nuit, les gendarmes ou les policiers leur tombent dessus alors qu'il y a le couvre-feu.
Donc le week-end du 24 septembre, ce sera à 18h.
Voilà, ça c'est pour le couvre-feu. Ensuite, le rassemblement. Le domaine qui est visé, c'est le domaine public. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questionnements. Mais je n'interdis absolument pas les manifestations d'activités sportives. Elles peuvent être autorisées. Les marchés peuvent être autorisés. Et puis tous les rassemblements qui relèvent d'usages locaux, qui ne sont pas évidemment de nature revendicative.
Quant à la vente d'alcool, elle est interdite à compter de lundi jusqu'au 24 septembre inclus. Une interview du haut-commissaire qui sera rediffusée dans son intégralité demain soir, juste après notre journal de 17h45. Vous pouvez aussi la retrouver en podcast, audio et vidéo sur notre site internet.
Le club politique de Radio Rythme Bleu a dressé hier soir le bilan des émeutes 4 mois jour pour jour après le 13 mai. Au sommaire également la décision de l'UPM de suspendre sa participation au fonctionnement du FLNKS et la décision du procureur général de ne pas dépayser le dossier des responsables de la CCAT. Les consultants du club sont aussi revenus sur la mission d'information du Forum des îles du Pacifique prévue en octobre. Ils ont enfin évoqué les difficultés de Michel Barnier pour former son gouvernement et se sont interrogés sur qui s'occupera du dossier calédonien. Un club politique qui sera rediffusé ce matin à partir de 11h et qui est disponible en audio sur le site internet de Radio Rythme Bleu.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 95% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS trouvent normal que l'instruction du dossier des responsables de la CCAT se fasse en Nouvelle-Calédonie et ne soit pas dépaysée, comme le demandaient les avocats du FLNKS. Ils ne sont que 5% à trouver que ce n'est pas normal. Merci pour votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. Et puis au chapitre politique, le PALICA réunit aujourd'hui une assemblée générale extraordinaire. Elle a lieu à la tribu de Noélie à Conné. Le PALICA doit parler de la mobilisation pour la sortie de crise. Il doit revenir sur le congrès des indépendantistes à Koumac il y a 15 jours et aborder également le renouvellement du bureau du congrès. Le Conseil économique, social et environnemental a examiné hier le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction proposé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Un plan approuvé par le CESE avec un certain nombre de recommandations. Mais les conseillers ont également adopté à l'unanimité un article qui est une condamnation claire des émeutes et des violences qui secouent le territoire depuis le 13 mai. C'est la première fois que le CESE prend position officiellement depuis le début des exactions. Marc Zessel, conseiller du CESE.
Pour la première fois, le CESE a pris position en condamnant fermement, clairement, les émeutes qui ont ravagé la Nouvelle-Calédonie depuis le mois de mai. Avec certains de mes collègues, on était inquiets parce que jusqu'à maintenant, le CESE n'avait pas condamné ces émeutes, alors que pourtant, il est le représentant de la société civile et la société civile, elle est martyrisée. Hein, 800 entreprises détruites, 27 000 salariés au chômage, les associations qui n'ont plus de budget pour fonctionner. Donc là, le CESE, de manière unanime, et le CESE, comme vous le savez, est composé de conseillers de sensibilité indépendantiste et conseillers de sensibilité non indépendantiste. Et de manière unanime, ils ont voté ce paragraphe qui condamne les émeutes et qui stipule que aucun motif ne peut justifier la ruine de l'économie calédonienne. Et ça me semble envoyer un message, à mon sens, absolument nécessaire par rapport à tout ce que la société civile, dont le CESE est le représentant, a souffert.
Des propos recueillis par Gilles Ménage et dans sa contribution de plus de 30 pages au PS2R du gouvernement, le CESE recommande en premier lieu de concrétiser un projet institutionnel stable. L'urgence de la situation, écrivent unanimes les conseillers, nécessite un accord politique effectif dans les plus brefs délais sur l'avenir institutionnel.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
L'aide de l'État inscrite au budget de la ville du Mont-d'Or, la décision modificative numéro 2 du budget de la collectivité a été adoptée hier à l'unanimité. Son objectif, intégrer l'aide de l'État pour les barges d'un montant de 107 millions, ce qui représente 25 barges par mois en moyenne. L'enveloppe couvre la part financée par la mairie qui est de 60% du coût total. Si les élus continuent de demander la sécurisation de la RP1 et le retour à la libre circulation, ils prévoient budgétairement dès aujourd'hui le fonctionnement des barges jusqu'à la fin de l'année. On écoute Eddy Le Courrieux, le maire du Mont-d'Or.
Dès le début, la ville a pris en charge ce service qui logiquement est pris par le port autonome, par la Nouvelle-Calédonie, qui n'avait pas d'argent. Donc la ville s'est substituée et a pris en charge depuis le mois de mai ce service. Aujourd'hui, on a demandé à l'État de nous aider. Donc l'État était d'accord, non seulement pour aider la province sud sur les navettes, et aider également la ville. Et ça a été le cas aujourd'hui. On a mis en recette et en dépense cette somme de 107 millions. Nous, on a déjà la recette qui est arrivée jusqu'au mois d'août. Et on a mis la ville a inscrit, parce qu'on ne souhaite pas voir disparaître ces barges, bien sûr. Donc on a inscrit jusqu'au mois de décembre la dépense.
Lorsque la situation s'améliorera, le budget sera à nouveau modifié. La séance s'est ensuite poursuivie avec l'attribution de subventions à des associations, des subventions en baisse, mais qui restent essentielles pour le maire, Edith Le Courrieux, afin de maintenir les activités et le tissu associatif sur la commune.
Malgré un budget très 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 restreint, on a continué à subventionner toutes nos associations, alors avec des montants plus ou moins coupés on va dire, mais néanmoins toutes les associations sont aidées. En matière de sécurité, donc j'allais dire quasiment à 100%, hein, je relève la subvention à l'aide aux victimes, la DAVI, hein, cette association qui travaille énormément sur le Mont d'Or. L'aide à la SPANC et tout ce qui est l'aide à la stérilisation et puis aux animaux abandonnés, parce que malheureusement, on voit que sur la Nouvelle-Calédonie, beaucoup d'animaux ont été abandonnés. Une aide également à l'association La Cravache du Mont d'Or, qui, depuis quelques mois, a des problèmes de structure, des problèmes financiers. Donc, pour éviter que les chevaux soient en situation extrême, on a mis cette subvention. En fin d'année, d'ici un ou deux mois, on mettra en place quand même une grande manifestation sur le Mont d'Or où les associations seront à l'honneur et où elles pourront monter des stands et pouvoir ainsi avoir un certain nombre de recettes qui les aideront.
Lors des échanges d'hier matin, il a aussi été question de l'organisation du wharf du Vallon d'Or. Certains aménagements sur la zone devront être effectués et les réflexions concernant le parking ou encore le marché qui s'est monté non loin de l'embarcadère ont débuté. On l'apprenait jeudi soir, le dernier vétéran calédonien des forces navales françaises libres de la Seconde Guerre mondiale s'est éteint. Jacques Lucien avait 100 ans, Michael Ginesky.
Jacques Lucien était né le 4 mai 1924 à Nouméa et il avait seulement 18 ans lorsqu'il s'est engagé dans les forces navales françaises libres le 1er février 1942. À l'époque, le jeune menuisier vit chez ses parents et veut absolument se battre pour son pays depuis déjà 2 ans. Il lui faudra beaucoup de ténacité pour y parvenir, nous rappelle Michel Mourguet, délégué de la France libre en Nouvelle-Calédonie.
Le problème, c'est qu'au début de la guerre, en 1941, le 5 mai entre autres, le nombre d'élus pouvant partir au front est très réduit. Et il s'est cassé le nez à plusieurs reprises au bureau de la marine qui ne comportait qu'un officier de réserve. Ce n'est que lorsque l'amiral d'Argentlieu arrive en novembre 1941 et qu'il crée l'unité marine Nouméa que Jacques est enfin accepté. Là, il embarque sur la vedette portuaire La Frégate, qui est un ancien remorqueur de mines. La frégate effectue, entre autres, le ravitaillement des postes de guet chaque mois, dont celui de l'île des Pins. Jackie est breveté matelot gabier le 23 juillet 1943. Il embarque sur l'aviseau Le Chevreuil, mais juste pour une mission temporaire. Au retour, on lui indique qu'il doit débarquer et être affecté à terre au dépôt de la marine. Ça lui plaît pas du tout. Et il indique qu'il s'est engagé pour se battre. Après avoir quelque peu bataillé, il est accepté en affectation sur le Chevreuil à compter du 1er juillet 43.
Jacques Lucien va donc servir jusqu'à la fin de la guerre sur cet aviso, le Chevreuil, notamment dans l'Atlantique, où il va escorter des dizaines de navires marchands vers Gibraltar ou Casablanca. Après la guerre, son engagement lui vaut la croix du combattant volontaire et la médaille du service volontaire de la France libre. En 1945, cette décoration est d'ailleurs accompagnée d'un message un peu plus personnel.
Répondant à l'appel de la France en péril de mort, vous avez rallié les forces françaises libres. Vous avez été de l'équipe volontaire des bons compagnons qui ont maintenu leur pays dans la guerre et dans l'honneur. Vous avez été de ceux qui, au premier rang, y ont permis de remporter la victoire. Au moment où le but est atteint, je tiens à vous remercier amicalement, simplement, au nom de la France. Le 1er septembre 1945, Charles de Gaulle.
Menuisier de profession, Jacques Lucien a travaillé longtemps pour la société Bois du Sud. Il possédait aussi la double nationalité franco-australienne. Et à l'occasion de son 100e anniversaire, le 4 mai dernier, il avait reçu une carte de félicitations manuscrite du roi Charles III d'Angleterre et une autre du Premier ministre australien. Les obsèques de Jacques Lucien seront célébrées lundi 16 septembre à partir de 11h au centre funéraire de Nouméa.
7h14, nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer la suite de l'actualité en métropole et dans le monde. On se retrouve après une page de pub.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pardouche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Radio Rythme Bleu, la première radio de Nouvelle-Calédonie.
La suite d'Info Weekend avec vous Isabelle.
L'actualité nationale et ce lycéen en garde à vue. Les faits se sont déroulés à Rezé, en Loire-Atlantique, près de Nantes. Cet élève a été mis en examen pour apologie du terrorisme et menace de mort. Il a simulé un tir avec une arme au moment de rendre un devoir à une enseignante. Le soir même, il diffusait ses menaces de mort sur Telegram en indiquant vouloir poignarder sa professeure. Que sait-on exactement du déroulé des faits? Les précisions de Guillaume Dominguez pour Europe 1.
Il y a eu un premier incident entre l'élève de terminale et son professeur. C'était mercredi, à la veille de son interpellation. En classe, alors que l'enseignante rend un devoir, le jeune homme de 17 ans mime l'utilisation d'une arme à feu en visant son professeur. Il est pris en flagrant délit, repris par l'enseignante et contraint de présenter ses excuses devant la classe. Le soir même, la professeure signale l'incident au rectorat en précisant que sur la copie rendue par l'élève, celui-ci y a inscrit des inscriptions en arme. Au même moment, sur le réseau crypté Telegram, le jeune homme diffuse des menaces de mort sous le pseudonyme de guerrier islamique. Il y indique vouloir, je cite, « planter à la jugulaire un de ses professeurs le lendemain », selon le parquet de Nantes. Et ce sont ces messages interceptés par la police qui ont entraîné son interpellation dès 6h le lendemain matin et son placement en garde à vue.
Et du côté de l'enquête, que sait-on de ce lycéen? On retrouve Guillaume Dominguez.
Il n'a aucun antécédent judiciaire. Il n'est pas recensé au TAJ, le fichier où sont inscrites les condamnations d'un individu. Il n'est pas non plus connu des renseignements territoriaux pour radicalisation. En revanche, lors de son interpellation, les enquêteurs ont trouvé chez lui un drapeau de l'État islamique, deux couteaux et un pistolet de Airsoft. Selon le parquet, les premières exploitations de l'ordinateur et du téléphone du garçon ont permis de retrouver des communications sur les réseaux TikTok et Telegram dans lesquels il diffuse des actions violentes de l'État islamique. Ce soir, sa garde à vue a été levée. Il a été déféré devant le juge d'instruction et mis en examen pour apologie du terrorisme et menace de mort. Alors, pour l'heure, le parquet de Nantes reste en charge de cette affaire, mais le parquet national antiterroriste se dit en observation. L'enquête, elle, a été confiée au groupe de lutte antiterroriste de la police judiciaire de Nantes.
Guillaume Dominguez pour Europe 1. Le service national universel sévèrement épinglé par la Cour des comptes. La facture annuelle explose. Les magistrats financiers étrillent un dispositif coûteux aux objectifs mal définis. Qu'est-ce que la Cour des comptes dénonce exactement? Mathieu Prior pour Europe 1.
Eh bien d'abord des objectifs incertains, vous le disiez. Par exemple, le SNU se veut inclusif en termes de mixité sociale, mais dans les faits, la Cour des comptes relève une surreprésentation de jeunes favorisés, dont les parents servent ou ont servi dans les corps en uniforme, comme l'armée. Le coût est également largement sous-estimé pour la première phase du service. Les dépenses planifiées par le gouvernement sont de 2300 euros par jeune. En réalité, elles sont d'au moins 2900 euros. Et pire encore, le coût de la généralisation du dispositif du SNU pourrait avoisiner les 5 milliards d'euros par an, bien loin des 2 milliards annoncés, de l'argent jeté par les fenêtres pour Sophie Vénétité, secrétaire générale du syndicat du secondaire SNES-FSU.
Ce rapport montre qu'une généralisation, ça serait 3 à 5 milliards d'euros. Pour vous donner un ordre de grandeur, augmenter tous les profs de 10%, ça coûterait 3,6 milliards d'euros. Donc tout ça montre que le SNU est une aberration et qu'il faut surtout se dépêcher de l'abandonner.
Dans la foulée, le ministère de l'Éducation nationale s'est défendu. Le SNU est une réussite. La preuve, le nombre de volontaires a triplé en 3 ans. Chez de nombreux jeunes, il a suscité des vocations professionnelles. Néanmoins, le ministère avoue être conscient du coût élevé et passe maintenant la balle au prochain gouvernement.
Mathieu Prior pour Europe 1. Politique et cette polémique sur la campagne électorale au faciès chez LFI. Les députés de la France Insoumise sont vent debout. Tout est parti de cette interview de François Ruffin. Le député de la Somme a été interrogé sur plusieurs passages de son livre, Itinéraire, ma France en entier, pas à moitié, dans lequel il accuse son ancien chef, Jean-Luc Mélenchon, de clientélisme électoral et de mépris de classe envers les électeurs populaires. À la fête de l'humanité, chacun choisit son camp. Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
Une grosse partie de la gauche partage les analyses de François Ruffin, notamment quand il qualifie Jean-Luc Mélenchon de repoussoir dans les zones rurales. C'est le cas du patron du Parti communiste français, Fabien Roussel.
Je dis halte au feu et faisons tout pour être rassemblés. Après, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, je l'ai passablement commenté et je l'ai écrit, je l'ai dit il y a longtemps. François le dit maintenant, tant mieux.
François Ruffin devrait avoir honte, répond l'insoumis Manuel Bompard, qui rejette l'idée selon laquelle son parti distribuerait des tracts aux faciès. Les militants que j'ai pu rencontrer ici sont eux aussi assez divisés, mais une majorité accuse François Ruffin d'avoir trahi Jean-Luc Mélenchon avec ses révélations. Cette guerre fratricide fait surtout beaucoup de mal à la gauche, selon l'écologiste Marine Tondelier.
Je ne crois pas aux gauches irréconciliables qui devraient choisir irrémédiablement entre est-ce qu'on fait les jeunes ou les vieux, les quartiers ou la ruralité. Ça n'a pas de sens. On a vocation à gouverner pour tous les Français. Alors peut-être que c'est parce que je suis une femme et je vais faire plusieurs choses en même temps.
Les deux hommes se verront demain à la fête de l'UMA pour des retrouvailles qui s'annoncent explosives.
Le reportage d'Alexis de la Fontaine à la fête de l'humanité pour Europe 1. Aux États-Unis, Donald Trump promet des expulsions massives. À Springfield, dans l'Illinois, où il a accusé des migrants haïtiens de manger des chats et des chiens, l'ancien président accuse son adversaire Kamala Harris de vouloir transformer les États-Unis en camp de réfugiés dans une campagne pour la Maison-Blanche de plus en plus tendue. Le Premier ministre britannique Keir Starmer est à Washington pour discuter avec Joe Biden de l'utilisation de missiles à longue portée par Kiev sur le territoire russe. L'Ukraine réclame depuis des mois le droit d'utiliser des missiles longue portée occidentaux, notamment américains, britanniques et français sur le territoire russe, au risque pour ces occidentaux de rentrer dans un conflit direct avec Moscou. Sur place, la Russie a intensifié depuis plusieurs semaines ses frappes sur le territoire ukrainien, lançant même l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début du conflit. Début septembre. Et puis le pape François a indiqué que le Vatican avait eu connaissance des abus sexuels commis par l'abbé Pierre au plus tard après la mort du fondateur d'Emmaüs en 2007. Il a été interrogé à ce sujet lors de son voyage retour en avion vers Rome à propos de cette personnalité française internationalement connue. Le pape a ajouté, je cite, « Tout type d'abus détruit la dignité de la personne. Je suis satisfait de voir sortir tous ces cas. L'abus sexuel sur les enfants et les mineurs est un crime. C'est une honte. » Fin de citation. 7h22, nous marquons une seconde pause dans ce journal avant de développer nos pages sport. À tout de suite.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébigue à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
Le fitness débarque au quartier latin avec The Box. Un univers où l'on casse les codes avec des entraînements pour tous, des cours collectifs agréés, les MILS et des cours coachés en small group. The Box, ouverture le 30 septembre. Renseignements au 74 08 25. Radio Rythme
Bleu. La suite du journal, Isabelle Pelletier.
Oui, et avant le sport, le festif et l'heure de voir de quoi sera fait votre week-end. Une actualité festive dense avec, pour commencer ce matin à Ducos, le grand marché Broussard. Il est organisé par la Chambre d'agriculture et de la pêche, Sarah Mégerie.
Un marché de grande envergure qui se déroule jusqu'à 16h sous la halle du marché de Ducos. Animation phare de la brousse et stands de produits locaux sont au rendez-vous. Le grand marché Broussard a déjà débuté depuis 7h, mais une inauguration se déroulera tout à l'heure à 8h.
Et pour les amateurs de produits calédoniens, c'est à la gare maritime du Béticho qu'il faut se rendre aujourd'hui.
Des producteurs de marais proposaient aux habitants de la Grande Terre de réserver des paniers en ligne remplis de produits frais venant de Ningonnet. Mais il est possible ce matin de venir composer son panier sans réservation.
À Nouméa, toujours, la ville propose une visite guidée du musée de la Seconde Guerre mondiale.
L'occasion de découvrir ou approfondir vos connaissances sur cette période en Nouvelle-Calédonie. L'entrée est gratuite et la visite se déroulera de 10h30 à midi. Un second rendez-vous sera proposé le 28 septembre.
Du côté du Mont-d'Or Sud, la Banque alimentaire se déplace à Ploum et propose un pique-nique partagé.
Cette partie du Mont-d'Or reste malheureusement pour le moment inaccessible par voie terrestre, mais cela ne veut pas dire que toutes les activités doivent être annulées. Une action de soutien, explique Betty Levanquet, présidente de la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie.
Pour nous, le vrai lancement, si vous voulez, de cette stratégie, c'est de mettre en avant notre capacité à offrir des bons produits locaux aux consommateurs là où ils habitent, en l'occurrence dans le Grand Nouméa, avec ce marché à Ducos. Donc un très très grand marché avec une centaine d'exposants, c'est-à-dire le double de ce qu'on a d'habitude, des animations rurales hein, comme le dépeçage de cerf, le claquage de fouet et d'autres activités, des stands de restauration, donc quelque chose qui sera vraiment intéressant.
Vous venez d'entendre Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, qui vous présentait le grand marché Broussard de Ducos. On le rappelle, c'est de 7h à 16h sous la halle du marché. Et puis à Dambéa, les microfolies, métalonneurs, les cultures urbaines, elles sous toutes leurs formes à l'occasion du freestyle extra.
Rap, graph, slam et projection de courts-métrages sont au programme de cette journée dédiée à ce mouvement culturel. Les précisions de Marie-Yvonne Raguet, responsable de la médiathèque de Dimbéa.
Nous avons eu l'idée de rassembler tous les Mondoriens du Sud qui veulent venir pique-niquer avec nous au parc Bloch à Ploume. Et Chef Joe va leur faire des pâtes au saumon fumé et des pâtes au lardon avec boissons et des petits desserts qui seront servis à partir donc de 11h. Et nous avons vraiment la volonté de faire tout ce que nous pouvons pour sauver ce lien social entre les gens. La Banque alimentaire, elle est là pour aider les plus démunis en particulier, mais pas que. Là, à chaque pique-nique partagé, on a invité les gens à venir partager ce moment de joie, parce qu'en général, il y a toujours une animation. Nous fournissons tout, c'est une invitation.
Et c'était donc Betty Levanquet, la présidente de la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie, qui offre un repas gratuit. On le rappelle, c'est aujourd'hui de 10h30 à 14h30 au parc Bloch de Ploume. Dans un autre registre, la CCI, donc à Nouméa, organise une journée porte ouverte dans ses locaux rue de Verdun.
Les Calédoniens pourront venir rencontrer les apprenants du centre de formation par alternance de la CCI pour en apprendre plus sur les différentes formations proposées pour la rentrée 2025. 12 ateliers seront proposés tout au long de la journée pour définir au mieux votre future orientation. Notez que les inscriptions à la rentrée 2025 de la CCI Alternance sont ouvertes jusqu'au 4 octobre.
Et on n'oublie pas ce dimanche la SPANC qui organise sa brocante. C'est de 7h à 11h dans ses locaux à Cotio.
Malgré sa récente subvention attribuée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour son fonctionnement, la SPANC a toujours besoin de dons pour subvenir aux besoins des animaux. Cette brocante sera donc l'occasion de faire une bonne action tout en repartant avec de nouveaux objets ou vêtements.
Merci Sarah Mégerie. On passe au sport maintenant, à la une de cette actualité sportive du football avec la quatrième journée de Ligue 1, Mickaël Genesio.
Et Saint-Étienne-Lille en match d'ouverture. Les Stéphanois qui sont actuellement 18e du classement, qui espèrent réaliser une belle performance contre des Lillois qui font déjà partie du top 6. Et après 80 minutes de jeu, le score est de 1-0 en faveur de Saint-Étienne. Ouverture du score de Cafaro au bout de seulement 6 minutes de jeu dans cette rencontre. Il reste encore une dizaine de minutes à jouer dans ce match.
En rugby, on joue ce week-end la deuxième journée du championnat de France.
Dès 23h30 ce soir, le RC Toulon sera opposé à Castres. Au même moment, le Stade français accueillera Vannes, le promu breton battu le week-end dernier par Toulouse. À 1h30, en simultané, le Racing 92 retrouvera Clermont. Bayonne se déplacera sur le terrain de la section paloise. Et Perpignan recevra Montpellier. Enfin, à 6h demain matin, Lyon affrontera l'Union Bordeaux-Bègles. Cette deuxième journée se conclura lundi avec un duel au sommet, le Stade toulousain contre le Stade rochelais.
Du tennis avec l'équipe de France éliminée de la Coupe Davis.
Les Bleus sorti par l'Espagne dans le dernier match en simple. Hugo Humbert n'a rien pu faire contre Carlos Alcaraz. Défaite logique 6-3, 6-3. Un peu plus tôt, Arthur Fils avait aussi perdu son match contre Roberto Bautista Agut 2-6, 7-5, 6-3. Les Espagnols, tout comme l'Australie, sont les qualifiés du groupe B pour rejoindre le Final 8 qui se disputera du 19 au 24 novembre.
On va passer maintenant à la F1.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La Formule 1, le Grand Prix d'Azerbaïdjan est au programme ce week-end.
Et lors des essais libres, c'est la Ferrari de Charles Leclerc qui a réalisé le meilleur chrono, juste devant la Red Bull de Sergio Perez. Lewis Hamilton sur Mercedes s'est classé 3e, suivi de l'autre Ferrari de Carlos Sainz Jr. Oscar Piastri sur McLaren complète le top 5, alors que Max Verstappen n'arrive qu'en 6e position. Côté français, c'est une entrée en matière compliquée. Pierre Gasly et Esteban Ocon ont terminé 18e et 19e. Pierre Gasly espère que la suite du week-end se passera mieux pour les curieux. écurie française.
C'est un tracé que j'apprécie, ouais, forcément. J'ai des bons souvenirs ici avec la troisième place en 2021. C'est un tracé qui est exigeant, c'est un tracé qui est compliqué, surtout voilà, c'est un circuit en ville, donc on joue avec les rails, avec les murs et essayer de repousser un peu les limites sans arrêt. Donc c'est un beau challenge. L'année dernière, ça a été compliqué pour nous en tant qu'équipe, donc on espère que ça sera un meilleur week-end pour nous cette année.
Les qualifications pour ce Grand Prix d'Azerbaïdjan seront à suivre ce soir. La course demain soir, départ à 22h, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacifique. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Le sport côté calédonien avec nos représentants qui étaient au championnat de France de padel, Mickaël.
Mais pas d'exploit pour les duos de champions territoriaux à Strasbourg. Chez les messieurs, Nicolas Ngaudrella et Laurence Pesley se sont inclinés contre la paire tête de série numéro 4 du tournoi en 16e de finale. Les féminines, Lindsay Motonekeriai et Celia Perez, se sont aussi inclinées dans le tournoi féminin. Les équipes calédoniennes disputeront encore les matchs de classement.
Un coup d'œil également à l'actualité du football.
La troisième et dernière journée du championnat féminin d'Océanie des moins de 16 ans. Ça se passe à Fidji. Les Calédoniennes sont pour le moment 3e à égalité de points avec les îles Salomon, 2e. Dès 14h, nos représentantes devront battre demain Tahiti en espérant une large victoire de la Nouvelle-Zélande face aux îles Salomon. Pour rappel, seules les deux premières équipes sont qualifiées pour les demi-finales. Et puis, sur le territoire, la suite du trophée du Grand Nouméa au Parc des Sports de Koutio. Les deux premières rencontres de la 5e journée. L'AS Lossi affrontera le Dimbé AFC à 14h. L'AS Segaïcha jouera contre l'AS Mondor à 15h45. L'AS Mondor qui pourrait rejoindre Horizon Sport et Magenta en tête du classement avec 3 victoires en 3 matchs. De son côté, l'AS Magenta jouera contre la Sélection A de Nouvelle-Calédonie. Un nouveau match de préparation aujourd'hui. Ça se passera au stade Nouma Delhi.
Et on passe en revue le reste de l'actualité sportive, Mickaël.
Du basket à Nouméa Bouraï ce week-end. La première division du championnat senior territorial. À 18h, l'équipe 1 de l'AS Rivière-Salée affronte le BC Point Boud sur le terrain de l'Ansvata. Demain, 3 autres rencontres sont au programme à Bouraï. Et puis en basket 3 contre 3, ça concerne la division 2. Ça se passe ce matin dès 9h au hall de Dimbé à Centre. On termine avec de la voile. Le Cercle Nautique Calédonien organise un challenge offshore, inshore, 3 bateaux en lice pour une échappée sportive dans le Grand Sud. Le départ sera donné à 10h30 et sera visible depuis le rocher à la voile. Et enfin, toujours sur l'eau, le Catamaran Club de Nouméa organise la 4e étape du Trophée des Eaux du Mont d'Or.
Merci beaucoup, Mickaël. 7h32, l'heure de passer à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Bruno.
Et on commence par une vigilance jaune, forte pluie orage sur Lifou et Marais pour un risque d'affaires modérées à fortes circulant lentement, voire même stationnaires, donnant par endroits des cumuls de précipitations importants. Le risque va s'atténuer aujourd'hui. En fin d'après-midi, alors ce matin, le ciel est souvent nuageux et des averses persistent sur la moitié sud de la Grande Terre, aux Loyautés et à l'île des Pins. Sur le nord, la lie de sud-est reprend entre 5 et 10 nœuds. Ailleurs, le vent est faible, de secteur variable. Sur le sud-ouest, en fin de matinée, il s'oriente ouest à sud-ouest de 5 à 10 nœuds. Puis cet après-midi, sur le nord-ouest, les éclaircies reviennent. Ailleurs, les nuages vont continuer de dominer. Des averses parfois modérées vont se développer sur la chaîne et déborderont ensuite vers la côte est. Côté température, elles sont stables. Toujours supérieures aux valeurs de saison, entre 26 degrés sur le sud et 30 degrés sur la côte ouest.
Merci beaucoup Bruno. 7h33, c'est la fin de ce journal.